Nous sommes tous, vous qui écoutez, peut-être sans aucune exception de toute façon, car le fait de se boucher les oreilles n'a jamais fait échapper à son époque, en état de sidération et en situation d'aporie. Entendez par là, ni plus ni moins de cas cliniques. Cela devrait vous intéresser, cela mérite d'être répété, nous sommes en état de sidération et en situation d'aporie. Merci docteur, a-t-on envie de dire, sachant que nous ne serons pas remboursés, c'est prosaïque mais ça compte, qu'il va falloir se soigner par soi-même et que si l'on est un peu honnête, vous beaucoup, moi un peu, avec soi-même, eh bien on ne le découvre pas tout à fait. Les hommes de l'art, justement, terme parfaitement générique comprenant évidemment les femmes, étaient réunis pour la 9e université d'été de la communication pour le développement durable, université organisée par ACID, l'association communication et information pour le développement durable, et par le comité 21, désormais familier à l'auditeur de Radio Éthique. Le diagnostic donc de notre époque, et en particulier de la civilisation occidentale, est clair, la sidération. En substance, l'anéantissement brusque des forces vitales, type apoplexie, c'est le diagnostic établi par le philosophe Patrick Vivray.
L'effet de sidération, c'est on a le sentiment que rien d'autre n'est possible. Donc même si on est victime écrasée par un système dangereux, si on a le sentiment que rien d'autre est possible, ça c'est un effet de sidération.
L'aporie est le terme de philosophie pour, en substance, définir la contradiction insoluble dans un raisonnement. Par exemple, quelqu'un qui doute eh bien, ne trouve pas le chemin pour sortir de ses incertitudes. C'est le constat établi sur le terrain par Bettina Laville, engagée depuis plus de 20 ans au service du développement durable dans les arcanes très directes du pouvoir.
C'est très très difficile de renoncer à la culture de l'avoir puisque c'est elle qui fonde complètement le système économique et qu'on n'a pas trouvé aujourd'hui de système économique qui offre finalement les mêmes richesses et qui serait simplement fondé sur l'essentiel.
Entendons-nous bien, la conseillère d'État n'a pas fait l'apologie de la richesse, mais d'emblée énoncé que, par exemple, la décroissance ne peut être en aucun cas un modèle. Question de décence aussi quand l'essentiel de l'humanité est pauvre. Or, avoir, c'est avoir l'eau potable. Et de citer le dernier numéro de Terra Eco, si 0,16% seulement du produit intérieur brut mondial y était consacré, eh bien, tout le monde sur Terre aurait l'eau potable. Savoir où l'on est, on le sait à peu près, au bout d'un système. Pour savoir où l'on va, eh bien précisément, la culture, l'enseignement des anciens qui, eux, n'en étaient peut-être pas arrivés là, n'est pas à négliger, au contraire.
Dans ce que j'ai dit ce matin à l'ouverture de l'université, c'était que tout le monde cherche finalement à changer de système, changer de civilisation, changer de paradigme, etc. Et que dans tout changement, il faut, je crois, retrouver des racines. Et comme on est dans une université qui essaye de penser un peu le développement durable, j'ai fait allusion effectivement à ce vieux couple philosophique de l'être et de l'avoir. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une espèce d'épuisement de l'avoir et que le fait de toujours acquérir, d'être dans une civilisation d'abondance, en tout cas pour la partie nord de l'humanité, et puis aussi d'être dans le même projet pour tous les pays émergents, font que l'être diminue finalement, la réflexion sur l'être, la recherche d'être diminue.
Exemple, en forme de rafraîchissement de la mémoire, le vrai rôle de la monnaie, Patrick Vivray.
Paradoxalement, la plupart des économistes n'ont pas une vraie réflexion sur la monnaie. Par exemple, quand on demande à un économiste de définir la monnaie, la plupart du temps, il n'a pas une définition de la monnaie. Il a une description de la monnaie, ce qu'on appelle les fameuses trois fonctions de la monnaie, l'unité de compte, le moyen de paiement et la réserve de valeur. C'est déjà une indication sur un point central de ne pas avoir de définition, d'avoir simplement une description, parce que quand on regarde cette description, on se rend compte que les termes de cette description sont contradictoires. Par exemple, pour qu'une unité de compte fonctionne, il faut qu'elle soit la plus neutre et la plus universelle possible. Si je prends les kilos, les mètres ou les minutes et les heures, c'est une condition indispensable. Mais si vous décrétez que vos unités de compte ont de la valeur, voire ont une capacité de réserve de valeur, c'est absolument contradictoire avec une unité de compte. Vous imaginez ce qui se passerait si les kilos et les mètres étaient en permanence à l'occasion d'une bourse mondiale quotidienne susceptible de changement. Et donc ça veut dire qu'il y a en fait très peu de théories économiques de la monnaie. Pour une raison fondamentale, c'est que la monnaie n'est pas d'origine économique. Quand on regarde l'histoire longue des sociétés, la monnaie, elle est d'abord d'origine religieuse, puis politique. Et d'ailleurs, le fait que la monnaie a d'abord une source politique et religieuse, elle se lie encore aujourd'hui. L'un des moyens les plus simples de s'en apercevoir, c'est de prendre le dollar, monnaie de référence par excellence. Qu'est-ce qu'il y a au dos du dollar ? In God we trust. En Dieu, nous croyons. C'est-à-dire, le politico-religieux est central dans la monnaie. Si on isole la monnaie comme un facteur purement économique, indépendant des facteurs culturels, religieux, au sens large du terme, et des facteurs politiques, on a des monnaies hors sol qui finissent par s'effondrer d'elles-mêmes parce que, justement, elles n'ont pas le support de lien social qui permettent de créer la confiance. Parce que la condition fondamentale de la monnaie, c'est la confiance. Si cet état de confiance qui suppose une communauté suffisamment soudée n'est pas réalisé, on assiste à des grandes crises monétaires.
Autre exemple encore, l'urbaniste et architecte Philippe Madec. Il était le grand invité de cette 9e université d'été. Il avait été expert lors du Grenelle.
Je me suis intéressé à la loi Grenelle 1 parce que j'ai été expert dans le cadre du Grenelle et que je voulais savoir tout le travail qu'on avait produit, qu'est-ce qui en était sorti. Et donc, en lisant la loi Grenelle 1 et en demandant à l'ordinateur, parce que les choses quand même sont un peu simples maintenant, de chercher le mot culture, l'ordinateur m'a répondu qu'il y avait 20 fois culture qui apparaissait dans le texte. Donc j'ai cherché chacune des occurrences, comme on dit, et j'ai trouvé donc 17 fois culture dans agriculture, 2 fois culture dans sylviculture et une dernière fois culture dans culture des protéagineux et autres légumineux. C'est-à-dire que la culture, celle que nous habitons, la figure historique cohérente dans laquelle nous habitons les uns et les autres, est absente de la loi Grenelle.
Nous sommes trop peu à en avoir entendu parler, a fortiori à s'en souvenir. En 1993, déjà, Jacques-Yves Cousteau avait intercédé en faveur de la création d'un conseil du droit des générations futures, Bettina Laville.
La réflexion sur l'être, la recherche d'être diminue. Les médias sont très responsables de cela. Moi, je me souviens que quand Cousteau avait fondé le conseil des générations futures, il avait proposé au président de la République, qui était alors François Mitterrand, non pas du tout de réfléchir sur la destruction de la nature et sur le climat, mais il avait proposé de réfléchir sur les médias et sur l'espèce d'endormissement mental des séries, etc., etc. Et je crois qu'il avait très très bien vu que le développement durable n'est pas simplement les trois piliers, mais qu'il y a un pilier, ce qu'on appelle le pilier culturel, mais je dirais même plus le pilier de l'essence, comme on dit, biens essentiels, etc. Et en plus, si vous voulez, qui était très présent, par exemple, à la conférence de Stockholm, puisque nous sommes aujourd'hui à Stockholm plus 40. On dit toujours qu'on va être à Rio plus 20, mais on est à Stockholm plus 40.
Inutile de vouloir télécharger gratuitement le modèle qui va permettre à l'humanité de se survivre à elle-même. Le petit utilitaire n'existe pas. Dans ce contexte, Rio plus 20, pardon, Stockholm plus 40, se présente comme le rendez-vous que l'humanité a aujourd'hui avec elle-même. Étonnant quand même, ce modèle unique et caduque et qui a été dupliqué, voilà bien qui est ressorti d'une vertigineuse indigence. Bettina Laville.
Le monde politique, et là vraiment je reprends le mot que j'ai pris ce matin, en complète aporie, parce que le monde politique sent bien qu'il faudrait changer complètement de système, mais n'a dans ses mains que des armes pour la régulation du système. C'est finalement révolution ou régulation. La révolution est un vieux mot qui a fait beaucoup de morts. Et donc aujourd'hui, il y a quand même une conscience des droits de l'homme, qui a été d'ailleurs apportée par la Révolution française, la Révolution américaine, qui fait qu'on ne croit plus à la révolution. En même temps, l'engagement de l'être est toujours pour une révolution. Quand je suis en forme, je dis qu'on meurt pour la révolution, mais pas pour la régulation. Et donc, si vous voulez, il est absolument évident que les politiques n'ont pas les mots. On ne peut plus prêcher la révolution, mais on n'est pas crédible en prêchant la régulation.
C'est fini. Exit les solutions simples, une organisation mondiale de l'environnement, ça risque d'enquister le développement durable. Vous voyez, ça n'a pas parlé langue de bois pendant cette université d'été au château d'Aigue, château de la Renaissance perdu au beau milieu du Luberon. Ils n'ont pas non plus été éludés, les risques du métier, Patrick Vivray.
Gramsci dit « la crise se produit lorsque le vieux monde tarde à disparaître, le monde nouveau tarde à naître et dans ce clair-obscur, ajoutait-il, des monstres peuvent apparaître ». Et justement, tout l'enjeu dans une période historique comme la nôtre, c'est si on veut éviter l'apparition des monstres, il nous faut suffisamment faire émerger le monde qui est en train de naître et sortir de la sidération du monde qui est en train de disparaître et de bien voir que ce monde-là n'est pas le seul monde possible.
Pour rendre ce monde en question possible, eh bien, reprenons notre logiciel inexistant et procédons par méthode. Éliminons tout d'abord ce qui le vérole, la démesure qui plombe, comme on dit, à peu près toutes les civilisations. Le déni, évidemment, refuser de voir que le système est vérolé et proprement aberrant. Le repli sur soi également, débile selon l'expression même de Bettina Laville. Il faut bien sûr, bien au contraire, organiser à l'échelle internationale. Les paramètres nouveaux. Parmi les évidences, nous n'avons jamais été aussi nombreux sur Terre. Est-ce un bien ou un mal? On n'en sait rien. Et nous n'avons jamais été aussi nombreux à tout savoir en même temps. Autre point positif, il y en a donc. Pour la première fois, l'humanité tente de réfléchir à son sort avant plutôt qu'après, comme jusqu'à présent où les traités internationaux avaient vocation à répartir les pots cassés. Question: comment passer de l'avant à l'après, Patrick Vivray?
Le point commun, aussi bien de la crise écologique avec le climat, la biodiversité, que de la crise sociale mondiale avec le creusement des inégalités, et évidemment de la crise financière, c'est le problème de la démesure, ce que les Grecs appelaient l'hubris. Quand vous avez, chiffre donné par un ancien responsable d'une banque centrale, plus de 97% des transactions quotidiennes qui ne correspondent pas à des biens et des services réels. Donc quand on est dans la démesure, on sait que l'insoutenabilité d'un système fondé sur la démesure est programmée. C'est vrai sur le plan économique et écologique, mais c'est vrai aussi sur le plan politique. L'URSS, il y a 20 ans, et 20 ans à l'échelle d'histoire, c'était hier, s'est effondrée sous le poids de sa démesure dans son rapport au pouvoir. De la même façon que les systèmes despotiques du monde arabe, mis en cause par le printemps démocratique, ont fini par s'effondrer sous le poids de leur démesure. Donc c'est très important d'anticiper l'insoutenabilité de ces systèmes pour construire, comme le dit Boris Cyrulnik à l'échelle individuelle, mais là de le reprendre à l'échelle sociétale, une capacité de résilience, c'est-à-dire la capacité, y compris en situation de bouleversement très important, de ne pas basculer dans la panique et dans la destruction, mais d'être au contraire capable de construire les forces de vie, le monde neuf en train d'apparaître dont parlait justement Gramsci.
C'était donc le philosophe Patrick Vivray. La résilience en politique, qu'en pense donc Bettina Laville?
Oui, Patrick, lui dit, et là je comprends très bien ce qu'il veut exprimer, que nous devons déjà penser à la résilience. Il est déjà dans l'après. Moi je pense que, j'allais dire malheureusement, nous n'y sommes pas encore. C'est-à-dire que toutes ces crises ébranlent le monde, mais ne le tuent pas, d'une part. Et toutes ces crises, finalement, sont des crises qui affectent des pays, des groupes de personnes, la situation de personnes, mais les marchés reprennent, ils remontent, les gens perdent tout, puis retrouvent tout, et finalement beaucoup de gens, quand ils font leur compte, je parle évidemment des spéculateurs, depuis 3 ans se sont finalement enrichis. Et donc on a l'impression que le monde continue de tourner, c'est vraiment la planète affolée, mais continue de tourner. Donc je pense qu'on n'en est pas encore au moment, par exemple, où des pays feraient faillite, et où les traitements des fonctionnaires seraient plus assurés, où les équipements publics ne seraient plus assurés, et où véritablement, et c'est très très possible, hein, quand on voit le poids des dettes souveraines. Et là, on aurait véritablement un chaos et une prise de conscience, et on trancherait entre ce qui est inessentiel et ce qui est essentiel, et il faut... Je crois, moi, que la résilience, qui d'ailleurs, sur le plan psychique, est d'abord un phénomène extrêmement lent et un phénomène qui, je crois, de tout ce que je sais de la psychologie, ne peut pas être inventé quand le choc ne s'est pas produit. C'est-à-dire que j'ai du mal de penser comme Patrick vivrait là-dessus, parce que je pense qu'on ne peut pas prévoir la résilience, parce que quand le choc, le deuil en l'occurrence, puisqu'on parle beaucoup de résilience après un deuil, ne s'est pas véritablement produit, on ne sait pas très bien les ressources que l'être va trouver en soi pour y faire face. C'est ça que j'ai voulu dire. Alors non pas que j'appelle de mes voeux un choc frontal ou le chaos, mais que je crois que la sensibilisation s'est faite, mais la conscience n'est pas complètement faite. Il faut que le choc soit plus profond, qu'on se rende bien compte que c'est la fin de quelque chose. Voilà. Je crois que c'est le mot fin qui est très important. Cette fin, elle n'est pas encore très présente dans nos vies. J'aurais tendance évidemment à ne pas l'appeler de mes voeux, parce que la nature humaine pourrait être assez majeure finalement, hein, l'humanité pourrait être assez majeure pour se rendre compte où nous en sommes sans cela. Mais malheureusement, je n'en vois pas encore tout à fait les prémices.
La résilience, cela vous aura pris moins de 5 minutes, 4 minutes 30 précisément, à écouter l'un, puis l'autre, Patrick Vivret le philosophe et Bettina Laville, 30 ans d'engagement en politique pour faire un temps soit peu entrer le développement durable dans les têtes et dans les décisions. D'autres, c'est vrai, ont opté pour des carrières politiques plus efficaces à titre personnel. On les entend parfois, par ailleurs, plus souvent. Sauf que quand on en est à un moment historique de l'histoire de l'humanité, eh bien cela valait la peine de les écouter. Restons iconoclastes une petite minute de plus avec le système ABS de Patrick Vivret.
Ce que j'appelle le système ABS, ce n'est pas l'airbag système, c'est le rapport de trois recherches.